Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, 13h à Bamako, 14h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. On commence par la lutte contre les djihadistes dans le Sahel, l'intensification des incursions de Boko Haram dans le sud-est du Niger. Au moins 10 civils ont été tués mardi soir dans des attentats suicides et une attaque perpétrée par le groupe islamiste nigérien Ngirmi dans la région d'Ifa à la frontière du Nigeria. Il y a eu deux types d'attaques, a déclaré à l'AFP Abakaya Issa, maire de Ngirmi. Selon lui, une femme kamikaze s'est fait exploser à l'intérieur du camp de la gendarmerie, blessant des femmes et des enfants de gendarmes. Et une seconde kamikaze a activé sa ceinture d'explosifs entre la mairie, le camp des gendarmes et la préfecture. Par ailleurs, des hommes armés ont attaqué le quartier de Dileram, tuant des civils et incendiant des maisons avant de repartir. Le bilan provisoire est de 10 morts, plus les deux kamikazes et 7 à 8 blessés. C'est la première attaque d'envergure contre Ngirmi, commune située au nord de Difa, le chef-lieu régional dans le bassin du lac Tchad. Et elle intervient après une série d'autres incursions meurtrières de Boko Haram dans le sud-est du Niger qui ont fait une dizaine de morts le week-end dernier. Au micro d'Iris Fall, plus de détails sur ces précédentes attaques de Boko Haram avec Hissen Boukar, le maire de la commune de Guesquerou dans la région de Difa.
C'était le samedi, nuit au dimanche. Donc, au niveau de la commune, dans le village de Alaïminari, il y a eu des maisons qui ont été incendiées par les BH et il y a eu 5 personnes qui ont trouvé la mort. Et au niveau de Ngadam aussi, c'était la même nuit. Tout le marché a été brûlé et il y a 6 qui ont été tués, 6 individus à Ngadam. Et ils ont enlevé 2 femmes. Ça, c'est la nuit du samedi au dimanche.
Et comment est-ce qu'on sait que ce sont des membres de Boko Haram?
Oui, bon, on les a enlevés quand il y avait certains qui étaient regroupés. Selon le renseignement, c'est eux, avec des tirs en l'air, ils font l'air flottant et ils ont des flammes, ils ont pris des bois. Quelques maisons sont là en train de mettre, c'est comme ça.
Et l'armée du Niger n'est pas présente sur place?
Quand on a eu l'écho, on les a informés. Donc, c'est-à-dire, quand ils viennent, parce qu'ils ne prennent pas le temps dans 5-10 minutes déjà, dès que tu viens, traverser comme c'est à côté de la Koumarougou. C'est à peu près à peine 5 km du bord de la Koumarougou. Et dès qu'ils traversent, ils sont dans un pays étranger.
Et après, quand ils font leurs attaques, ils retournent au Nigeria.
Dès qu'ils attaquent, comme c'est à côté de la frontière, et dès qu'ils rentrent au Nigeria, là-bas, c'est du contrôle de l'autre côté.
La rivière Koumarougou, c'est la rivière qui sépare le Niger du Nigeria.
Voilà, c'est ça, la frontière artificielle qui sépare le Niger et le Nigeria. Maintenant, il n'y a pas l'eau, ça arrive, donc c'est pour eux, ils peuvent traverser dans n'importe quelle direction.
Et quelle est la situation globale dans votre commune?
Bon, maintenant, il y a compte tenu vraiment du choc. La population, il y a une partie qui est là, rentrée, la plus grande partie sont rentrées à Difa. Il y en a d'autres qui sont partis un peu au nord, dans des villages, dans des parents et autres, dans des camps des parents.
Hissen Boukar, maire de la commune de Guesquerou, région d'Ifa, dans le sud-est du Niger, à la frontière du Nigeria. Relations États-Unis-République démocratique du Congo maintenant, le nouveau président de la RDC, Félix Tshisekedi, est attendu la semaine prochaine ici à Washington. Les détails avec Jean-Roger Bion.
Félix Tshisekedi sera notamment reçu par le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo, a annoncé hier le département d'État. Son porte-parole Robert Paladino a également dit en réponse à une question n'avoir rien à annoncer pour l'instant quant à une rencontre entre le président congolais et son homologue Donald Trump. M. Paladino a ajouté que pendant cette visite du 3 au 5 avril, il sera question de la détermination de Washington à travailler avec M. Tshisekedi pour, je cite, « la mise en œuvre de son programme visant à combattre la corruption, renforcer l'état de droit, améliorer la sécurité, protéger les droits de l'homme et promouvoir la croissance économique par une hausse des investissements étrangers et du commerce, notamment avec les États-Unis ». Fin de citation. Nous soutenons l'engagement du président Tshisekedi à apporter le changement que le peuple congolais réclame et mérite, a encore dit M. Paladino. La coopération pour venir à bout de l'épidémie d'Ebola dans l'est de la RDC sera aussi à l'ordre du jour.
Relations RDC-Rwanda, le président congolais Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame ont déclaré vouloir oublier le passé et travailler ensemble à mettre fin à la violence le long de la frontière rwando-congolaise. Propos tenus par les deux leaders ce mercredi à la réunion de l'Africa CEO Forum, le forum des PDG d'Afrique en cours à Kigali, la capitale rwandaise. Le chef de l'État congolais a participé à un panel de discussion avec le président Kagame et il a souligné que la RDC est prête à travailler avec ses partenaires dans le domaine du développement pour intégrer les groupes armés actifs dans l'est du territoire de la RDC et les décourager de poursuivre leurs activités. Pour sa part, Paul Kagame a affirmé qu'il souhaitait travailler à améliorer les relations bilatérales avec son voisin.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Afrique de l'Est, maintenant, le Kenya prévoit de fermer d'ici au mois d'août le camp de Dadaab, le plus grand camp de réfugiés en Afrique. Les précisions d'Irénée Herman Umbo.
Selon un document du HCR daté du 28 février, le gouvernement kényan a envoyé le 19 février une note verbale l'informant sur le projet de fermer le camp de Dadaab dans un délai de 6 mois. La note demande ainsi à l'organisation d'accélérer la réinstallation des réfugiés et des demandeurs d'asile qui y résident. Dans le document, le HCR atteste de sa volonté de travailler avec le gouvernement, à la fois au retour volontaire dans les pays d'origine et à la réinstallation des réfugiés dans d'autres camps ou dans des pays. Le camp de Dadaab héberge quelques 230 000 personnes, en grande majorité des Somaliens, depuis le début de la guerre civile en 1991. Un travailleur humanitaire de Dadaab a déclaré que toutes les ONG travaillant sur place sont au courant de ce projet de fermeture sur lequel le gouvernement fait profil bas. En mai 2016, Nairobi avait unilatéralement décidé de fermer le camp, qui comptait alors 320 000 personnes, le désignant comme un terrain d'entraînement pour les Chebabs somaliens.
Au Comores, archipel de l'océan Indien au large du nord du Mozambique, le président sortant Azali Assoumani a été réélu dès le premier tour selon les résultats provisoires annoncés par la commission électorale. L'opposition, pour sa part, dénonce ce qu'elle appelle un coup d'État. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Azali Assoumani a recueilli 60,77% des suffrages, devançant son principal adversaire Mahamoudou Ahmada, qui a obtenu 14,62%. Ce dernier a immédiatement rejeté les résultats, dénonçant un coup d'État militaire à travers une élection présidentielle. Il a appelé la communauté internationale à ne jamais reconnaître la réélection de M. Azali. Un peu plus tôt, la plateforme citoyenne, un collectif d'ONG, avait affirmé que les résultats n'auront aucune crédibilité. Les observateurs de l'Union africaine de la COMESA ont déploré des incidents lors du scrutin. Ils ont soutenu que la situation empêche de se prononcer de façon objective sur la transparence et la crédibilité du scrutin. Le camp présidentiel a balayé d'un revers de main toutes ces critiques.
Mouvement de contestation en Algérie, le chef de l'état-major de l'armée algérienne, Ahmed Gaïd Salah, a proposé hier que le président Abdelaziz Bouteflika, affaibli par la maladie et contesté par la rue, soit déclaré inapte à exercer le pouvoir en vertu de la Constitution, ou qu'il démissionne tout simplement. Les détails avec Raïssa Girondin.
Le général Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense, est considéré comme l'un des personnages les plus puissants du régime, a prôné le lancement de la procédure prévue par l'article 102 de la Constitution, applicable quand le président, pour cause de maladie grave et durable, se trouve dans l'impossibilité totale d'exercer ses fonctions ou en cas de démission. Ce sont les deux chambres du Parlement qui, sur proposition du Conseil constitutionnel, doivent voter à la majorité des deux tiers l'état d'empêchement. La balle est donc dans le camp de M. Bouteflika, s'il choisit de démissionner, ou dans celui du Conseil constitutionnel Taïb Belaïd, à qui il revient de lancer la procédure pour déclarer le président inapte à exercer ses fonctions. Âgé de 82 ans et au pouvoir depuis 1999, M. Bouteflika est affaibli par les séquelles d'un AVC. L'annonce de sa candidature à un cinquième mandat a déclenché des manifestations massives dans le pays. Face à la pression de la rue, le président a renoncé à cette candidature et a reporté sine die la présidentielle prévue le 18 avril. Il a prolongé de fait son mandat actuel, ce que rejettent toujours les manifestants.
Et pour terminer, les séquelles du cyclone Idai en Afrique australe. 5 cas de choléra ont été confirmés au Mozambique, frappés mi-mars par le cyclone, et des inondations qui ont fait 468 morts dans le pays. C'est ce qu'a annoncé ce mercredi Hissein Issé, le directeur national mozambicain de la santé, en précisant que les malades sont soignés à Beira, la seconde ville du pays, et ses environs. Selon M. Issé, 1 million de doses du vaccin anti-choléra doivent arriver ce week-end dans la région. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.